C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Samuel Beckett, écrivain, 1906-1989. Né en Irlande, ayant écrit en français et en anglais. Élevé dans le rite anglican, hétérosexuel, politique, gauche, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Œuvre, Oh les beaux jours, pièce de théâtre, écrite en anglais sous le titre Happy Days en 1961, traduite en français par Beckett lui-même en 1963. Personnage, Winnie. Je crois que le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est un des plus faciles à définir qui soit. Si je dis « C'est une dame à demi enterrée dans un mamelon d'herbe brûlée », tout le monde reconnaît Winnie, le personnage de « Oh les beaux jours ». Et aussitôt, en l'ayant défini ainsi, je me rends compte de la simplicité de conte pour enfants qu'ont cette pièce, ce personnage. On ne pourrait pas, en réduisant au plus maigre un personnage de Proust, sur qui Beckett a d'ailleurs écrit un livre, arriver à une pareille évidence. Swann, c'est le riche amateur juif qui a écrit sur Vermeer, et après. On croit deviner, derrière Winnie et tout le théâtre de Beckett, un arrière-plan allégorique ou contre-allégorique, ce qui ne changerait pas l'intention. Les contes pour enfants cherchent souvent à instiller une morale ou une leçon dans la tête des enfants. Or, il y a une grande différence de simplicité entre la leur et celle de Beckett. Les contes moraux pour enfants s'adressent à quelqu'un en particulier, un groupe dont les auteurs ne font pas partie et dont ils ne pratiquent pas le langage, et ils limitent ou croient limiter, ou condescendent à parler simple pour se faire comprendre, ce qui donne le côté si souvent engoncé des contes. Winnie, c'est tout le contraire. Et elle n'est donc pas plus un personnage de conte que Beckett n'est allégorique. Winnie n'imite pas, elle parle comme elle parle, pour personne en particulier, sinon son mari, qui est près d'elle. Et encore, le plus souvent, c'est à elle-même qu'elle parle. Voilà peut-être ce que sont les personnages principaux de Beckett, des gens qui se parlent à eux-mêmes, tandis que les personnages secondaires tentent de s'adresser à eux, les principaux. Dans son mamelon d'herbe brûlée, Winnie a l'air non pas d'une allégorie mais d'un mythe. Comme un personnage de mythe, elle énonce avec des mots très communs d'apparentes énigmes ayant l'air de venir d'un monde où on sait plus de choses. Les mythes n'ont pas besoin de 1000 ans d'usage et de polissage pour devenir ce qu'ils sont. Ils sont si évocateurs dans leur obscurité que nous les adoptons tout de suite. Et Winnie est avec nous comme une pitié à parapluie depuis plus de 50 ans, depuis, comme qui dirait, toujours. Une de ses premières répliques est « Oh, les beaux jours de bonheur ». Le titre français de la pièce aurait été inspiré à Beckett par un vers du colloque sentimental de Verlaine, poème dont le désabusement n'a pu que lui plaire. Les vers de Verlaine, les voici. « Ah, les beaux jours de bonheur indicibles où nous joignions nos bouches. C'est possible. » Dialogue que pourrait avoir Willy, cette algue échouée, et Winnie, ce corps morant dans la marée noire de sa vie passée. Pour parler du personnage de Winnie, je reçois le comédien Gabriel Dufay, qui créera en octobre prochain une pièce de Kate Tempest fracassée à la Maison des Arts de Créteil avant de la faire tourner en France. Gabriel Dufay, à quoi ressemble Winnie physiquement ?
Winnie, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui a de beaux restes, qui est décrite comme légèrement corpulente, et qui a surtout cette particularité, quand on la prend dans le premier acte de la pièce, d'être enfoncée jusqu'à la taille dans ce mamelon au sein de cette terre brûlée. Voilà ce qu'on peut dire de son apparence. Et évidemment, l'enlisement va petit à petit progresser au fur et à mesure de la pièce. Mais après, si on va un peu plus loin dans la description, Winnie, c'est effectivement une sorte de mythe, comme vous l'avez dit, et c'est à la fois, plus elle s'enlise, plus sa légèreté, quelque part, va en s'accroissant. Et là, il y a un paradoxe qui est assez formidable, parce que Beckett a souvent été décrit comme le dramaturge du néant ou de la noirceur. D'ailleurs, quand la pièce a été créée, Jean-Jacques Gauthier du Figaro dénonçait un festival d'abjection et une apothéose du néant.
N'était pas après, pardon de vous interrompre, pour dire que c'était aussi une pièce comique, car ça c'est un vieux truc de la droite, c'est-à-dire que quand une pièce est bonne, ils disent qu'en fait c'est comique.
Tout à fait, oui.
Non que Beckett ne soit pas comique d'ailleurs, mais...
Oui, oui, mais je pense qu'on a enfermé, on a pu enfermer Beckett dans une étiquette comme dans une autre, à la fois en appuyant en appuyant fortement sur l'aspect de la noirceur et à la fois en appuyant fortement sur l'aspect comique, les pensées de Pascal jouées par les Fratellini. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une forte portée comique, puisque chez Beckett, les clowns sont souvent présents, et d'ailleurs c'est souvent des pièces de duo, même si Winnie est en monologue, mais c'est quand même un faux monologue, il ne faut pas oublier, évidemment, Willy. Donc c'est un couple, Winnie et Willy. Mais tout ça pour dire que je crois que la noirceur, c'est un trompe-l'œil, et surtout, évidemment, le paysage qui est décrit dans la pièce est très noir. C'est un paysage presque d'apocalypse, de fin d'humanité. Mais pourtant, il y a le sourire de Winnie et sa légèreté et sa grâce. Et quand on relit la pièce, c'est extrêmement frappant. Beckett, je crois, est du côté de la vie et de la légèreté.
Alors, il faut dire ce qui se passe, si tant est qu'il se passe quelque chose dans la pièce, car Winnie, donc, qui est enterrée jusqu'au buste dans la première partie et jusqu'au cou dans la deuxième, possède un sac dans lequel, je crois, il y a 14 objets.
Et oui, oui, et ces objets vont se manifester au fur et à mesure de la pièce et vont avoir une importance capitale, puisqu'elle dialogue tout autant avec Willy, qui est caché derrière le mamelon, qu'avec ces objets, qu'avec ces accessoires. Et donc, ces objets ont une vie propre, puisque parmi ces objets, il y a cette fameuse ombrelle on a beaucoup parlé après, puisque c'est vraiment, je crois même que Beckett a écrit cette pièce en ayant cette image-là d'une femme dans un mamelon avec cette ombrelle.
Pardon de vous interrompre, on dit qu'il a, et on aura la photo sur la page internet du site, qu'il se serait inspiré d'une photo de 1938 d'une actrice anglaise alors célèbre qui était Frances Day, une photo d'Angus McBean, et où on la voit enfoncée nu dans un panier d'osier jusqu'au torse. Est-ce qu'on sait ça vraiment ou parmi les éléments de cristallisation du personnage?
Écoutez, là ça c'est une chose que vous m'apprenez, mais c'est tout à fait possible parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Beckett partait toujours sur une pièce avec une image forte en tête. Il y a deux objets qui me semblent importants. C'est l'ombrelle, évidemment, parce que elle signifie une forme d'envol, d'élévation, d'aspiration à l'élévation, aussi de poésie, et le revolver. Le revolver, je crois qu'il s'appelle Browning, puisque les objets ont même des petits noms. Du coup, pour moi, symbolise aussi la tentation du suicide ou de la mort, donc de quelque chose qui irait vers... c'est une possibilité. Et en même temps, il y a cette ombrelle comme une antithèse de l'autre objet. Après,
c'est une Mary Poppins du désastre.
Exactement, oui, on pourrait un petit peu la voir comme ça. Mais après, ce qui est amusant aussi, c'est que c'est Michel Bouquet qui dit l'acteur est artificier des secousses qu'il va produire sur le spectateur. Je crois que Beckett, dans cette pièce, avec toutes ses didascalies, parce qu'elles sont amples, elles sont fournies, se fait l'artificier des secousses pour le spectateur, donc quelque part facilite un peu le travail de l'acteur. Et ce qui est intéressant, c'est que les objets vont être traîtres et vont avoir leur vie propre. Et on pourrait dire qu'il y a deux pièces en une. Comme souvent chez Beckett, il y a la pièce des dialogues qui sont réduits à portions congrues, ce qui est très agréable en lisant et relisant la pièce, en la revoyant. C'est qu'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de gras sentimental, et il y a la pièce d'Eddie Dascali, qui pourrait être une pièce en soi. C'est très amusant en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur. S'il n'y avait plus les dialogues et uniquement les actions, la pièce pourrait tenir aussi.
D'ailleurs, c'était intéressant ce que vous dites, parce que un auteur ne sait pas nécessairement tous ses personnages, et dans une lettre d'octobre 61, c'est-à-dire peu après avoir fini d'écrire la pièce, Beckett dit « Je sais que les créatures sont supposées n'avoir aucun secret pour leur créateur, mais je crains que les miennes n'aient presque que ça ». Alors lui dit ça, mais comme vous le dites, les didascalies sont très contraignantes et il était très directif quand il donnait des indications de mise en scène. À la création anglaise en 61, il demandait très fermement au metteur en scène que l'interprète de Winnie ait une monotonie verbale, je cite, et à une reprise ultérieure en 79, l'actrice a dit dans une interview qu'elle n'en pouvait plus de l'obsession de Beckett sur la prononciation du texte. Donc il sait très très bien ce qu'il pense de son personnage.
Oui, tout à fait. Je pense que comme Pinter, qui est un de ses fils, parce que ce qui est intéressant, c'est que Beckett a eu beaucoup, beaucoup d'enfants dans le théâtre contemporain.
Trop.
C'est même trop, on pourrait dire. Mais je pense que Beckett était à... Ses personnages lui échappaient, je pense qu'il partait d'une image et qu'il était à l'écoute de voix qui restituaient. Mais pour autant, il était extrêmement précis, c'est un auteur d'une précision absolue. Et très méticuleux par rapport aux détails, et moi c'est ça qui me touche aussi autant, et je pense que il était aussi metteur en scène, même s'il y avait des metteurs en scène avec lui et pas des moindres, je pense à Roger Blin par exemple, mais c'est intéressant par exemple de voir que Roger Blin, quand il a monté la pièce, ne voulait pas être qualifié de metteur en scène. Il voulait être qualifié, je crois, d'animateur ou quelque chose comme ça, mais pas de metteur en scène, parce que pour lui, c'était Beckett qui était à la fois auteur et metteur en scène.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous qui êtes et acteur et metteur en scène, c'est que dans le fait qu'il demande ou qu'il demandait une diction neutre du personnage de Winnie, on dirait qu'il veut que sa Winnie soit comme un oiseau de cage, un oiseau de boîte à musique, vous savez. Et alors, il veut que l'acteur ne suggère aucune interprétation, mais c'est bien embêtant pour un interprète.
Oui, mais parfois il faut aussi lutter face aux auteurs. Et je pense qu'il y a un dialogue fécond à avoir qui est presque silencieux, dans une résistance silencieuse. Parce que tout le paradoxe, c'est effectivement cette diction neutre qu'il demande, et en même temps, il y a tellement de didascalies avec des intentions, il y a tellement de didascalies avec des sourires, avec une perplexité, avec une déception. Donc il y a tout un tas, il y a un panel d'émotions énormes.
Qui sont un peu contradictoires d'ailleurs avec sa façon d'écrire, qui est très frappante d'ailleurs. Quand la pièce s'appelle « Oh les beaux jours », sans point d'exclamation, alors que Verlaine c'est « Ah, point d'exclamation, oui. Les beaux jours ». Donc il y a une intention d'écrasement du ton à la fin des phrases, très frappante chez Beckett, et qui est contredite par les didascalies à nouveau.
Oui, mais je pense que Beckett, c'est vraiment le maître des contradictions, et je pense que c'est là tout l'intérêt entre si on revient à les beaux jours, entre la lumière et l'obscurité, il y a un combat qui se fait entre l'enlisement et la légèreté, entre le temps qui passe et en même temps le retour de l'enfance. Il y a quelque chose et de ces contradictions que l'acteur doit à tout prix refléter, en fait. Et je pense que si Beckett demandait des acteurs sobres, avec une diction neutre, en revanche, les acteurs qui doivent jouer Beckett doivent être extrêmement nourris et de l'intérieur, et avoir une densité extrêmement forte. Moi, les exemples d'acteurs ou d'actrices qui ont joué Beckett, qui m'ont marqué, sont des acteurs qui avaient déjà un parcours et presque une expérience des tragiques grecs, même des tragiques. Et donc, je pense par exemple à Michel Bouquet, que je vous ai cité.
Vous l'avez joué, Beckett ?
Non, j'ai jamais joué Beckett, mais je l'ai énormément lu, et je rêverais de le jouer, et surtout, j'y pense beaucoup en jouant tout le répertoire contemporain. C'est très très frappant quand on pense à des auteurs comme Jon Fosse, Thomas Bernhardt que j'ai mis en scène, Edouard Bond ou Kate Tempest que je vais monter, à quel point Beckett a des répercussions sur le théâtre contemporain, et notamment cette idée de la tragédie, de la mythologie qui se réactive, mais à l'os, au nerf, avec une économie de moyens très forte et une attention sur la partition.
Un rôle de théâtre est parfois très marqué par son créateur, et c'est le cas de Winnie. Je crois que même en langue anglaise, on reconnaît que celle qui a contribué à la renommée vraiment internationale du personnage, et en partie parce qu'elle l'a tournée dans le monde entier, c'est Madeleine Renaud qui a créé la pièce. Et qui, elle, n'est pas du tout un acteur neutre.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle est en contradiction avec ce qui est dit du personnage de Winnie au début de la pièce, c'est-à-dire la cinquantaine de beau reste, blonde de préférence, grassouillette. Et Madeleine Renaud n'est pas du tout grassouillette, mais je pense que là, il y a eu une rencontre très forte, absolument inattendue, et Madeleine Renaud a joué la pièce, je crois, 25 ans durant, entre un acteur et son personnage. Ça n'était pas forcément l'actrice que Beckett avait en tête, et pourtant, voilà, j'ai envie de dire que Madeleine Renaud a mis un saut sur ce personnage devant l'éternité, même s'il y a eu de merveilleuses actrices.
Ah oui, il y a eu Adriana Asti, voilà, Barbara Wilson en 2010, elle était formidable.
Fiona Shaw avec Deborah Warner, même plus récemment Catherine Froh, qui était très 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 bien aussi. Voilà, Marie-Lou Marigny, ou même je me souviens de Yann Collette, acteur, qui a joué le personnage de Winnie. Cela dit, j'ai réécouté un enregistrement de Madeleine Renaud dans ce rôle-là, même si c'était une actrice extrêmement expressive, il y a une forme de sobriété dans son interprétation qui est très très marquante. Je pense qu'elle s'est pliée à ce régime Beckett, mais nourrie aussi de son côté léger, pépiant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Madeleine Renaud, c'était une histoire d'amour. Ce « Oh les beaux jours » est une histoire d'amour.
Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais il ne faut pas oublier, on n'en parle pas beaucoup, qu'il y a Willy, et que ce sont des personnages très proches, puisqu'il est derrière le monticule, et en même temps, irrémédiablement éloigné. Oui. Mais il y a aussi une histoire d'amour.
Oui, oui, complètement. Mais après, il y a une ambiguïté avec ce Willy qui est derrière le monticule, qui passe son temps à être derrière, qui passe une main, parfois un bout de crâne, et qui, à un moment donné, disparaît. Au tout début du contact, on pense même qu'il est peut-être mort, mais peut-être ce Willy n'est-il qu'un fantôme. Ce qui est extrêmement beau dans cette pièce, je trouve que Beckett a rarement, et je pense même que c'est une des seules fois au théâtre, mis un personnage féminin au centre. Là, le personnage féminin est principal, et il donne à cette femme une puissance et une puissance de vie. D'ailleurs, Winnie, c'est la gagnante, quelque part, c'est la femme gagnante. Willy, ça serait l'homme voulant, mais Winnie, c'est la femme gagnante. Et il lui donne c'est un rôle phénoménal pour une actrice, et c'est un rôle lumineux, je trouve. Et ça, par rapport à tous les clichés qu'on a sur Beckett, c'est très très intéressant.
Nous allons maintenant entendre un extrait de « Oh les beaux jours » en anglais, de « Happy Days » donc, puisque aussi bien Beckett l'a d'abord écrit en anglais.
Youhou! Youhou! Poor Willy. Running out. Well, can't be helped. Just one of those old things. Another of those old things. Just can't be cured, cannot be cured. Ah yes, poor dear Willy. Good Lord. Oh, good God. Oh, well, no worse. No better, no worse, no change, no pain. It's a great thing, that. Nothing like it. Cure? What? What? Ah, yes. Poor Willy. No zest for anything. No interest in life, poor dear Willy. Sleep forever. It's a marvellous gift. Nothing to touch it, in my opinion. Oh, you said so. Wish I had it. Genuine pure.
Gabriel Dufay, dans la pièce de Beckett, dans « Oh les beaux jours », Winnie a une rengaine sous forme de trois mots qui reviennent, j'ai compté, six fois dans sa bouche, et ces mots sont « le vieux style ». La première fois qu'elle les prononce, ils sont précédés de la didascalie « sourire », et une fois qu'elle les a dit, autre didascalie « fin de sourire ». Donc « le vieux style » la fait sourire.
Oui, et d'ailleurs, elle ne cesse d'essayer de se souvenir de vers d'une poésie passée. Alors c'est là qu'on pourrait retrouver également en nombre porté Verlaine, le colloque sentimental, te souvient-il de notre extase ancienne, comment voulez-vous qu'il m'en souvienne, le colloque sentimental qui porte quand même sur un couple d'amants qui se retrouvent et qui évoque le passé, qui est empreint d'une nostalgie infinie. C'est là qu'il pourrait y avoir une discrète ironie portée là-dessus. Mais Beckett ne cesse de dialoguer avec les classiques. Et il y a quelque chose à double sens là-dedans, parce que d'un côté, le vieux style, on peut entendre la chose un peu ironique par rapport au style tout à fait moderne, épuré qu'emploie Beckett, où on pourrait dire, par rapport au style ancien, il n'y a plus la musique est à l'os, et en même temps, c'est ça qui est assez beau. Le personnage de Willy dit à un moment donné, heureusement qu'il y a ça, heureusement que les mots sont là, même si Beckett est conscient des limites du langage, et toute son œuvre porte aussi là-dessus. les mots qui échappent, les mots qui menacent de s'enfuir, qui aura-t-il quand il n'y aura même plus les mots? C'est une question aussi de la pièce. Eh bien, on se raccroche quand même à ces mots. Et ces mots sont porteurs, nous aident. Et je pense que il y a là-dedans une croyance dans le fait de dire les choses et de dire aussi la beauté. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'étonnant quand même. Je pense que Beckett, quelque part, sauve la beauté. La pièce s'appelle « Oh les beaux jours ». Il y a évidemment quelque chose d'ironique, mais il y a aussi quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que la pièce finit et commence malgré tout par un sourire, et par un air de musique, et par l'art. Et même s'il y a des traces de l'art passé, des traces de Verlaine, des traces infimes de Racine, mais les traces sont là. Et c'est ça qui importe. On peut facilement passer à côté de cette pièce quand on la lit une première fois. Et comme d'autres textes de Beckett, d'ailleurs, parce que c'est un théâtre ou une œuvre qui peut paraître a priori austère, et qui n'est pas finalement jouée tant que ça aujourd'hui, ou les beaux jours, ça ne se joue pas tant que ça. Mais c'est quand on la lit à voix haute, que ça résonne et qu'on sent cette espèce de musicalité absolue, de jeu avec les rythmes, et qu'il y a des morceaux d'éloquence, et que la pièce se déplie, et c'est là qu'on se rend compte que c'est un magistral auteur de théâtre.
La chose qui peut faire que la pièce passe rapidement sous l'œil des gens, c'est que c'est un elliptique, et comme tous les elliptiques, il cache l'essentiel.
Oui, mais c'est vrai que moi qui suis... qui a été dans des comités de lecture de textes contemporains, je peux me demander, par exemple, Beckett aujourd'hui apparaîtrait, on pourrait passer à côté, parce que si on lit vite les textes et les textes de théâtre, c'est très facile de passer à côté, surtout des textes qui sont souterrains et qui sont elliptiques.
Pour en revenir au personnage de Winnie, elle a une réplique qui est « Hélas, dit-elle. Comment, hélas, dit-il. Qu'est-ce que ça signifie, hélas ? » Et est-ce que ça ne veut pas dire, d'une certaine façon, que c'est un personnage et une pièce qui, exactement comme le poème de Verlaine, se méfie de la nostalgie ? Parce que d'ailleurs, vieux style, c'est ça. Oh, les beaux jours, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de guerre à la nostalgie dans ce personnage ?
Je crois que Beckett a un rapport contrarié à la nostalgie, que c'est une œuvre empreinte de nostalgie. On prend, par exemple, un petit texte comme « Premier amour », qui est absolument sublime. Il y a ce rapport-là. La nostalgie est toujours présente, mais c'est une nostalgie positive. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de complaisance dans cette nostalgie. C'est Jean-Louis Barrault qui disait de Winnie, sa nature est obstinément braquée vers l'optimisme, c'est une damnée de l'espérance.
Et à la fin, il y a une chose qui, à mon avis, devait tout à fait convenir à Madeleine Renaud, c'est qu'elle n'est vraiment pas sentimentale. À un moment où Willie rentre plus ou moins vers elle, elle lui dit « Ça me rappelle le printemps où tu venais me geindre ton amour.
» Oui, alors il y a toutes ces choses qui sont extrêmement drôles. Et en même temps, je pense qu'il y a un véritable amour entre eux. Et je pense que dans le couple Winnie-Willie, on peut aussi voir en nombre porté le couple que Beckett formait avec Suzanne, avec sa femme. Et il y a une manière de se moquer de soi-même. Et malgré tout, il y a une pudeur de sentiment, mais il y a un amour qui est là et qui se dit. Et je pense que là-dessus, le deuxième acte est très intéressant parce qu'il y a cette absence de Willie. Peut-être est-il mort, peut-être a-t-il disparu. Et il y a la détresse de Winnie avec ses accessoires où tout se met à défiler, à se détraquer. Et puis tout d'un coup, Willie revient. Et là, c'est comme un miracle ou un mirage, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, l'émerveillement de Winnie s'accroît. Et tout d'un coup, il y a ce sourire final et ce regard entre les deux qui est de l'ordre d'une sorte de bonheur absolu, effectivement, de ce retour de Willie. Après, de toute façon, Winnie est un personnage qui a tendance à s'émerveiller, et c'est ça la beauté de ce rôle.
En même temps, tout ça, c'est des perpétuels allers-retours en elle-même. Elle a une phrase tout à fait vers la fin, où elle dit à Willie « Pardonne-moi, Willie, on a de ces bouillons de mélancolie. » Alors, c'est peut-être plus contre la mélancolie, en réalité, qu'elle se bat. Est-ce qu'on vous diriez que Winnie est une maniaco-dépressive?
Je pense qu'elle se bat avec, de toute façon, des émotions sombres, ces bouillons de mélancolie dont vous parlez. Et en même temps, je la décrirais beaucoup plus comme une combattante, une femme tenace. Et je crois que là, il y a quelque chose d'une obstination à vivre envers et contre tout, et peut-être à combattre la dépression, la grisaille, la tristesse et l'enlisement dans lequel elle est, ne l'oublions pas, puisqu'elle est contrainte à une immobilité totale, à la combattre avec le sourire. Et là-dedans, je pense qu'il y a une leçon. Voilà, on a souvent décrit Beckett comme le père du théâtre métaphysique. On en a fait un peu trop aussi là-dessus, parce qu'il y a autant d'humour que de métaphysique, oui, que de philosophie, que de tragédie. Voilà. Mais je pense que
C'est un critique anglais qui s'appelait Martin Esslin, maudit soit-il, qui a inventé à propos de Beckett l'expression théâtre de l'absurde, dans lequel on nous a englués, et lui aussi, pendant 30 ans. Je me demande d'ailleurs si le mot absurde est une seule fois dans le théâtre de Beckett.
Je ne pense pas. En tout cas, il n'est pas dans cette pièce. Je pense que, au contraire, c'est un théâtre, au contraire des stéréotypes, c'est un théâtre qui est en quête de sens. Ce n'est pas un théâtre de non-sens. Et c'est un théâtre, non pas riche de ténèbres, mais riche aussi de lumière. Et que Beckett est en constante interrogation, et non pas dans une espèce de d'idée de l'absurde, voilà. Mais on pourrait dire la même chose de Ionesco à un autre endroit, c'est-à-dire que cette appellation théâtre de l'absurde a malheureusement peut-être un peu momifié l'œuvre, alors que l'œuvre est beaucoup plus grande, belle et riche que ça.
Gabriel Dufay, que vous a appris le personnage de Winnie?
Winnie, elle m'a appris, je crois, l'obstination à vivre, à persévérer et à voir la lumière en dépit des ténèbres, à sourire sur fond de guerre. Et elle m'a appris aussi, oui, la capacité à s'émerveiller. Je pense que c'est Einstein qui disait, celui qui a perdu la faculté à s'émerveiller a presque perdu sa capacité à vivre. Et c'est très important, bon, de s'émerveiller dans la vie, c'est une chose, mais aussi au théâtre, l'étonnement, c'est aussi une des armes de l'acteur. La capacité, tous les jours, à renouveler un étonnement, un être là, un être au présent, hic et nunc, et à être sidéré par ce qui se passe. Et je pense qu'en relisant cette pièce, on peut penser à cela, et c'est une formidable leçon aussi pour les acteurs.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Éric Boisset.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.